Shalom. Shalom, shalom, mes amis. Eh bien, Erev Tov.
On revient dans l'étude de la Torah de Manitou. Et aujourd'hui, un sujet très, très fort. Par contre, peut-être qu'on ferme la porte. Ou chez eux, ou chez nous.
Ou même les deux.
Ou même les deux. On revient dans l'étude de la Torah de Manitou. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui était extrêmement important dans la Torah de Manitou. La question du dévoilement divin. C'est-à-dire, Gilui Itgalut Hashem Be'olamo. C'est-à-dire, le dévoilement divin, c'est quelque chose de fondamental. C'est tellement fondamental que je vous rappelle tout de même que c'est la base de tout le judaïsme. Tout le judaïsme ne dépend que d'une seule dimension, à savoir le dévoilement divin. Lorsque tu demandes au Rambam, voilà, monsieur Rambam, bonjour, moi je ne connais rien au judaïsme, en quoi croyez-vous, vous les juifs ? Eh bien, le Rambam s'est dit, je vais faire une liste de 13 points qui sont la émouna du peuple juif. Il l'écrit dans l'Agdama, le Perek Relek, c'est les Shloshesre Ikarim, la fameuse chanson de Yigdal. Ouais. Maintenant, s'il n'y avait pas eu la chanson, et même s'il y a la chanson, si je te demande de me les réciter par cœur, les 13, l'opachut, local, 13 c'est beaucoup. Donc, Rabbeinu Yitzhak Abravanel, il a dit, je vais réduire à 10. 10 points qui sont les éléments fondamentaux du judaïsme. C'est pas mal, c'est mieux que 13, mais c'est encore trop. Donc, Rabbeinu Chisdai Kreskas au 15e siècle, enfin, fin du 14e, début 15e, il écrit dans son livre Or Hachem, 6 points, qui sont les 6 points de dévoilement. Mais c'est encore trop, et donc son élève Rabbi Yosef Albo, dans le livre Sefer HaIkarim, il résume tout le judaïsme en 3 points. Metziut Hashem, l'existence du divin, Sachar Vaonesh, qu'on va pouvoir traduire par littéralement récompense-punition, mais cause-conséquence en fait. Et troisième point, Torah Min Hashamayim, que la Torah elle vient du dévoilement du ciel. Donc trois c'est facile à retenir, mais si on devait choisir un des trois sur lequel on base tout le judaïsme, ben, nous dit le Rambam, ça ne peut pas être Metziut Hashem, l'existence de Dieu, l'essence du divin, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. Tu ne peux pas baser tout le judaïsme sur un truc qui n'est pas clair. Sachar Vaonesh, c'est très vrai, mais c'est très pas juif. Enfin, je veux dire, non, c'est pas que c'est pas juif, c'est pas que juif. C'est-à-dire le fait que dans ce monde, chaque cause entraîne une conséquence, c'est très très vrai. Mais c'est vrai dans la réalité, c'est pas seulement vrai dans le judaïsme. Donc ce qui va déterminer le judaïsme, c'est Metziut. Torah min Hashamayim. Le fait que la Torah elle vienne d'Akadosh Baruch Hu, c'est le point, pas central, mais de départ du judaïsme. Peut-être qu'ils veulent venir au cours. Hein. C'est le point de départ du judaïsme. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut rien baser s'il n'y a pas de dévoilement divin. D'accord ? C'est-à-dire que la grande primauté du judaïsme, alors évidemment, je dis primauté parce qu'il y aura eu le christianisme et l'islam après, mais ce qui fait du judaïsme quelque chose de premier, c'est qu'il s'agit d'une dimension révélée. Ok ? C'est une tradition révélée, ce n'est pas une tradition qui est le fruit de la réflexion humaine, de génération en génération, non, c'est une révélation. D'accord ? Ce qui est très important pour nous, c'est de bien comprendre que cette révélation, elle vient donc mimala lemata, et non pas l'inverse. Dans le judaïsme, on ne peut pas créer un lien vers Dieu qui vient du bas vers le haut. Ce n'est pas possible. À partir du moment où c'est l'homme qui essaye d'instaurer un lien avec le divin, ça s'appelle l'idolâtrie. D'accord ? On a un exemple dans ça dans la Torah, c'est la paracha de Kitissa, paracha du veau d'or, où l'intermédiaire qui servait d'intermédiaire entre le haut vers le bas, Moshe, n'est plus là. Qu'est-ce que dit le peuple ? Il dit à Aaron, « Kum asel anu Elohim, ki aish Moshe, asher ilchou lefanenu, lo yadanu me'ayal. » D'accord ? Comme on ne sait pas ce qui est arrivé à Moshe, fais-nous un remplaçant à Moshe. Et ça devient le veau d'or. D'accord ? Donc, eh bien, la révélation est première dans le judaïsme. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de judaïsme. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que la révélation ne peut pas, pour devenir une révélation qui va compter dans l'histoire, ne peut pas être une révélation à un individu. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait parlé à Abraham, à Adam Arishon, à Noach, à Shem ve'Ever, à Abraham, Yitzhak ve'Yaakov, je vais dire une phrase très dure, Zeshum Davar. C'est pas du tout important pour nous pour déterminer la véracité de la révélation. Le fait que ce soit remarqué dans la Torah va leur donner leur véracité. Mais en soi, le fait que Dieu parle à Abraham, ça m'avance à rien. Parce que, bah qui me dit que c'est vrai ? Dieu parle à Abraham et Abraham me dit que Dieu lui a parlé. Et vous savez quel est le problème ? C'est que Bichlal, Abraham ne dit pas que Dieu lui a parlé. On ne peut pas se baser sur Abraham, il ne dit rien. Alors vous allez me dire, mais non, mais on a lu qu'Abraham, il faisait des chiourines de folie et il convertissait tout le monde. Oui, il convertissait tout le monde à quoi ? Au monothéisme, pas à la révélation. C'est très différent. Et donc, nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim que Moshe Rabbeinu, il le dit d'ailleurs dans, également dans Agdama le Perusha Mishnah, que Moshe Rabbeinu a une particularité. Il est le premier Navi Shaliach. Ça, c'est la première fois, Moshe, que Dieu lui parle et lui dit d'aller dire aux autres. Jusqu'à présent, Dieu, il parle. Celui qui l'entend, il l'entend. Et les autres, OK ? Donc, on ne peut pas baser le judaïsme sur la révélation à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Ce n'est que parce que Moshe, après avoir été authentifié, va raconter leur histoire et va dire que Dieu leur a parlé, que pour nous, ça devient important. OK, on est d'accord ? Ça va. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire la révélation ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a révélation, qu'il y a un dévoilement de Dieu dans le monde ? Il y avait un homme que Manitou citait beaucoup, enfin beaucoup, qu'il a cité au moins trois fois, donc c'est beaucoup, qui était un très grand penseur, philosophe de la fin du 19e siècle en Allemagne, qui s'appelait Franz Rosenzweig. C'est un bon nom bien marocain. Franz Rosenzweig. Bon, c'est un juif. C'est un juif qui, bon, il est un peu attiré par le christianisme et tout, et il se dit qu'il va se convertir au christianisme. Il est déjà à la fin de sa vie, il a déjà la cinquantaine passée, et il se dit qu'il veut se convertir au christianisme. Mais il se dit, je vais quand même faire un dernier kippour à la synagogue avant de me convertir. Il fait son kippour, je ne sais pas qui était le chazan là-bas, mais ça l'a touché en plein cœur, et finalement il décide de ne pas se convertir. Et au lieu de ça, il écrit un bouquin traduit en hébreu, 600 pages, Otsat Mossad Bialik. Alors vous savez que l'hébreu, quand tu traduis de l'hébreu, ça réduit. Il y a moins de mots en hébreu. Donc s'il fait 600 pages en hébreu, je te laisse imaginer combien il faisait en allemand. Et le titre du livre dit Star Funde Geule, ou en français, l'étoile de la délivrance. Et qu'est-ce qu'il nous raconte là-bas Franz Rosenzweig dans l'étoile de la délivrance ? Il dit, il y a trois parties dans le livre. La première partie nous parle d'un premier triangle. Dans ce triangle, nous allons avoir trois spitz, trois pointes. La pointe du haut, c'est Dieu. La pointe du bas, à droite, c'est l'homme. Et la pointe du bas, à gauche, c'est le monde. OK ? Hachem, Adam, Vaola. D'accord ? Ça, c'est toute la première partie du livre où il explique qu'est-ce que c'est Hachem, qu'est-ce que c'est Adam, qu'est-ce que c'est Olam. Deuxième partie du livre, un autre triangle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la première page de chaque partie, il dessine le triangle. Donc, la première partie, c'est un triangle avec la spitz vers le haut. Deuxième partie, triangle, spitz vers le bas. Où nous avons à ce moment-là deux pointes ici et une pointe en bas. Et il va nous dire, dans la pointe en haut, à la gauche, c'est-à-dire, on appelle ça Abria, la création. En haut, à droite, à Itgalut, et en bas, à Géoula. Je vous le donne en mille, la troisième partie du livre, il superpose les deux triangles. Nous avons donc une étoile de la délivrance, un Magen David, et le Magen David va nous dévoiler en fait de quoi on parle. Quel est le lien entre Dieu et le monde ? C'est la création. Quel est le lien entre Dieu et l'homme ? Le dévoilement, la Hidgalut. Et quel est le lien entre l'homme et le monde ? La Géoula. Ok ? Ça te fait le dessin ?
Ouais.
Ça marche bien ?
Avec l'autre, non?
Non.
Pourquoi
Dieu? J'ai dit Dieu,
ah, okay.
L'homme, le monde.
Oui.
Ouais. Donc ensuite, c'est quoi le lien entre Dieu et le monde?
La création.
La création. Comment est-ce que Dieu fait un lien avec son monde? Il a fait la création. Comment il fait le lien entre lui et l'homme? C'est Aïd Galout, le dévoilement. Et c'est quoi le lien entre l'homme et le monde? La Géoula. D'accord ? Yesh ? Donc, eh bien, Vanuatu va nous expliquer. Oui, il y a un lien fondamental entre l'homme et Dieu, ça s'appelle le dévoilement. S'il n'y a pas de dévoilement, c'est un monde terrible. Nous vivons depuis 2300 ans dans un monde terrible où il n'y a pas de dévoilement divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le créateur et la créature. C'est terrible. Faut être conscient de ça. D'accord ? Mais c'est terrible pour qui ?
Pour l'homme ?
Am Israël ? Ou l'humanité toute entière ?
L'humanité toute entière.
Évidemment. Est-ce que l'humanité toute entière va être impactée par la révélation au Mont Sinaï ? Par le dévoilement ?
À l'époque ?
À l'époque !
Non.
Non. Le Midrash nous dit que tu as raison. Ce n'est pas l'homme qui va être impacté. C'est la création tout entière. Tu as raison. Ne nous limitons pas à l'homme. Puisque le Midrash nous dit qu'au moment où Dieu il a parlé, Tzipor lo tzietz. Même les oiseaux, ils n'ont pas tweeté. C'est trop facile. Mais personne n'a parlé. Genre, le monde entier, oh, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, quel a été l'élément sine qua non pour qu'il y ait le dévoilement au Mont Sinaï, qui est marqué dans la paracha qu'on a lue hier. Il y a une histoire qui, si elle n'arrive pas, il ne peut pas y avoir le dévoilement au Mont Sinaï. Alors, tu as raison, 100%, mais ça se passe avant. Je te parle, maman, juste avant. Qu'est-ce qui se passe juste avant ? Juste avant le moment de dévoilement au Mont Sinaï, Yitro arrive. Ron ? Yitro arrive, Kol HaKavod, et tous les commentateurs se disputent. Est-ce que l'histoire avec Yitro, ça se passe avant le don de la Torah, ou ça se passe après ? Et de là, on va te dire le fameux principe qu'on utilise toutes les 5 secondes. C'est quoi le principe ? En Mugdam ou Meuchar Batorah. Vous connaissez ce concept ? Qu'en fait, il n'y a pas de Mugdam ou Meuchar. Des fois, il y a une histoire qui est marquée là, mais en fait, elle s'est passée après, machin. Et ça va être l'avis de plusieurs commentateurs qu'effectivement, Yitro est arrivé, toute l'histoire Yitro, machin, les tribunaux, ça se passe après Mahamad Arsinaï. Sauf que, En Mugdam ou Meuchar Batorah Zenachon, aval en vrai, on s'en fiche. Parce que Yesh Mugdam ou Meuchar Besefer Atorah. Ron ? C'est-à-dire, peut-être que les événements se sont passés avant ou après. Le Chachouv, quand Dieu il a décidé de dicter à Moshe, il a dicté cet événement-là avant celui-là. Donc ça veut dire que même si dans les faits il s'est passé après, nous on s'en fiche. Ce que Dieu il veut que nous on retienne, c'est que ça s'est passé avant. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'histoire avec Yitro, il ne peut pas y avoir Mahamad Sinaï. L'âme. Bien sûr que Dieu va se révéler à nous. Mais s'il n'y a pas un représentant de Umot HaOlam, si le monde n'est pas arrivé à un niveau moral suffisant pour recevoir la Torah, même si ça ne va pas passer par lui, ça va transiter par Am Yisrael, l'Ochajou. On ne peut pas donner la Torah à un monde barbare. Midrash dans la Kutimoni va nous dire cette phrase incroyable. Raou yaya Yaakov avinu shetinaten Torah al yado. Yaakov était au niveau largement pour que la Torah soit donnée par lui, mais sa génération ne le méritait pas. Yitro est le représentant du monde. C'est un goy. Donc le fait que Yitro soit capable de s'éveiller à dire Atayadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Maintenant je comprends que Akadosh Baruch Hu au top. Ah, donc il y a un non-juif qui a réussi à ça ? C'est-à-dire, on peut donner la Torah. C'est-à-dire, tout le monde n'y est pas encore arrivé, mais c'est possible. D'accord ? Donc évidemment que le monde entier va être impacté par le dévoilement au Mont Sinaï. D'ailleurs, le monde entier a de témoignages. La réalité dans le terrain, je le sais de la Torah. La Torah me dit que Dieu a déjà parlé à l'être humain. Il a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, il a parlé même avant. Donc je sais que Dieu il a déjà parlé. Avodah Zarah dans le monde. Eh oui, comment est-ce possible d'arriver à de l'Avodah Zarah ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Comment ça se fait que nos ancêtres et les ancêtres de l'humanité prenaient des pierres et leur rendaient un culte ? Comment est-ce possible ? Ils sont débiles. Encore la pierre, c'est une chose. Le soleil, c'est une chose. Mais le mec, il prend une pierre, il la taille, il fait une statue. Il y a même marqué en bas la signature de l'auteur de la statue. Et ça devient un dieu. Allô ? Donc comment on peut comprendre ça ? Platon lui-même dira qu'il ne comprend pas ses ancêtres. Il dit de deux choses l'une, soit ils ont parlé par parabole et on ne les comprend pas. Et la vraie question c'est, comment est-ce possible que toutes ces générations qui ont fait des choses extraordinaires dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la construction, je veux dire, on parle de toutes ces civilisations qui ont créé le monde, on parle de l'Égypte avec ses pyramides, avec son irrigation, on parle de Babylone, on parle de la Grèce antique, des Phéniciens, le commerce maritime. Bah, les amis, on parle de gens qui ont inventé des choses absolument incroyables. Ils étaient loin d'être bêtes, les gens. C'est-à-dire ? Parce que moi aussi, j'ai pas attendu Archimède. Moi aussi, j'ai très vite compris que quand je remplissais ma baignoire et que je sautais dedans, il y avait de l'eau qui faisait plouch. Mais ensuite, réussir à trouver le calcul de la formule. Donc ils sont loin d'être bêtes, tous ces gens-là. Et au niveau de leur émouna, on se dit que c'était des enfants. Il y avait... On sent que Dieu est là. C'est même pas une chéla là. Yesh it galut, il y a un dévoilement, donc on le ressent. Et lorsque Dieu arrête de se dévoiler... Et bien tout le monde le ressent aussi. Lorsque Dieu arrête de se dévoiler, tout le monde le ressent aussi. Les cultures ont changé d'idéologie. C'est à ce moment-là qu'en Grèce, on est passé de la mythologie à la philosophie. C'est en ce moment-là où en Perse, on est passé de l'idolâtrie à la religion de Zarathoustra basée sur le bien et le mal. C'est à ce moment-là qu'en Inde, on est passé d'idolâtrie au bouddhisme.
Shalom,
Mazal Tov. C'est à ce moment-là qu'on est passé en Chine de l'idolâtrie au confucianisme et au taoïsme. C'est que le monde entier, sans concerter, change. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on ressent que Dieu ne parle plus. Donc il faut repenser ma relation avec, ce qui n'est pas palpable.
Il parlait à Israël ou il parlait au monde
entier? L'homme chané. D'abord l'homme chané, parce que lorsque Dieu il parle, tout le monde le ressent, même si c'est pas à toi qu'il parle. Deux, bah, dans la prophétie, on voit que Dieu il a parlé aussi au goyim. Il y a eu des névim chez le goyim. Que ce soit Bilam, que ce soit Yov, ou que ce soit Ovadia, chez nous, mais qui parle à Edom. C'est-à-dire, donc, yesh. Mais lorsque ça s'arrête, ça s'arrête. Et donc, nous vivons dans un monde, depuis 2300 ans, où il n'y a plus de dévoilement divin. C'est un monde terrible. Et à ce moment-là, arrive Torah ta Kabbalah. La Kabbalah, elle commence après l'arrêt de la névoie. Elle fait quoi, la Kabbalah ? Elle traduit dans un langage intellectuel ce que les prophètes vivaient. D'accord ? Mais c'est caché. Parce que tu es obligé d'expliquer des choses qu'intuitivement tu ne comprends pas. Moi, j'ai lu dans la Torah que Dieu il a dit à Moshe « Lo irani adam vachai ». Personne ne peut me voir et vivre. Dieu a dit à Moshe. D'un autre côté, je vois le prophète, Ishayahu, qui me dit « Raïti et Hashem, Yoshev al-Kisera Menissa ». J'ai vu Dieu. Ah. La Kabbalah, elle va te dire « Non, c'est par Tzoufim. C'est des dévoilements différents et machin, on va t'expliquer. » Donc, mais lui, le prophète, lui, il te dit « Mais j'ai vu. Qu'est-ce que tu me saoules ? J'ai vu. » C'est-à-dire ? Donc on a dit le dévoilement, c'est ce qui permet de maintenir le monde. Sauf que comme on a dit, pour que le dévoilement soit acceptable, il doit être authentifiable. Et c'est pourquoi la base du judaïsme, c'est le dévoilement en Sinaï. Il y a la raison amenée par Rabbi Yehuda Halevi, mais il y a également l'explication de Manitou. Pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est très simple, vous connaissez l'histoire. C'est le témoignage et la transmission. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait parlé, pas à une personne, mais à 600 000, et qu'est-ce que je raconte 600 000 ? 3 millions. Et que ces 3 millions ont raconté la même histoire à leurs enfants, c'est la preuve de la véracité du témoignage. Ah oui. Tu demandes, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à Toubishvat, à Emouna ? Tu demandes à une personne. Il te dit, ouais, il y a eu un CDR, il y a eu des fruits, et il y a eu un cours de rafison. Ouais. Ou pas. Sauf que tu as un autre témoignage, et puis un autre témoignage, et puis un autre témoignage, et tu as 100 personnes qui viennent dire, mais non, mais t'es là, on a vu ça, ça, ça et ça. Et tout coïncide.
Cet argument-là, j'ai entendu certaines personnes dire que ça peut être une hallucination collective. Comment répondre à ça ?
Ah, ben, justement. Justement. Bon, d'abord, l'hallucination est vachement plus puissante lorsqu'elle est collective que lorsqu'elle est individuelle. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient dire « Ouais, il m'est arrivé un truc de fou », c'est facile à dire « Ouais, écoute, t'as pris quelque chose, la manne, tu sais, la manne hallucinogène, on la connaît. La manne, quand on la cuisine d'une certaine façon, elle peut avoir des vertus incroyables. » Toi, tu dis « Non, peut-être c'est une hallucination collective. » Tout le monde est rentré dans le même trip. Bon, d'abord, au niveau Mercari, au niveau scientifique, il y a des limites au niveau du nombre à l'hallucination collective. Ça ne marche pas sur 3 millions de personnes. Ça, c'est la première chose. Parce que pour qu'une hallucination collective elle marche, il faut qu'il y ait des conditions très précises où les gens sont réunis au même endroit, dans un endroit fermé, avec un régime particulier. Enfin, il y a plein de conditions pour que ça marche. Mais disons que toutes les conditions sont réunies. Un isorème. C'est là que Manitou intervient et va nous dire il y a un autre facteur qui fait que je sais que ce n'est pas une hallucination collective. Quel est ce facteur ? Il nous explique Manitou, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que tu ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas dans ton univers. Quelque chose de très simple en fait. Tu ne peux inventer et halluciner que quelque chose qui fait partie de ce qu'il appelait ton domaine de définition. Tu connais les éléphants, tu connais le rose, tu es capable d'halluciner et de voir un éléphant rose. Hein ? Oui, mais alors maintenant tu sais qu'en fait le Rav Cherki, ça vient de Manitou. Vu qu'ici on étudie Manitou, alors je suis obligé de dire que ça vient de Manitou. Mais même si tout le monde sait que ce que je dis, je l'ai appris du Rav Cherki. Mais là en l'occurrence, on parle de Manitou. Effectivement, c'est de ça qu'on parle.
C'est l'exemple de l'éléphant rose qui
vient. Il vient aussi de Manitou. C'est-à-dire dans la parole, il écrit l'éléphant rose. Peut-être que c'est de là que Rav Cherki a appris l'éléphant rose. Parce que j'ai dit ça la semaine dernière. Mais je n'ai pas parlé d'éléphant rose parce que je donnais des exemples de films et tout ça machin pour expliquer qu'on invente des choses qu'on connaît. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, bah, par exemple, il y a un dessin animé très connu, il y a la panthère, puis il y a le rose, et il y a la panthère rose. Et je me suis mis à chanter la chanson. Donc là, je n'ai pas pris l'éléphant rose, j'ai pris la panthère rose. Mais tout d'abord, c'est-à-dire... Donc, je suis prêt à imaginer quelque chose que je connais et je vais le mélanger, je vais le truc, mais quelque chose qui ne fait pas du tout partie de ma vie, je ne peux pas l'inventer. Or, nous dit Manitou, le dévoilement du créateur à la créature, ce n'est pas quelque chose que tu connais si jamais il ne t'a pas parlé. Et pourquoi cela ? Il dit parce que dans notre monde, la notion de création n'existe pas. Dans notre univers, il n'y a rien qui a été créé. Prenez n'importe quelle chose que vous connaissez dans ce monde, ça n'a jamais été créé. Tout a été transformé. Non ?
Développe.
Ben, je développe. La chaise.
C'est là.
Quoi ?
Ok.
Convaincu.
C'est bon ?
Non, mais par exemple, est-ce que c'est, comment dire, les animaux, c'est pas une créature ? C'est une création ?
Moi, j'ai créé un animal.
Toi.
Ah, il y a fait. Donc, il y a Monsieur Panda et Madame Panda. Ils ont fait un panda, un petit peu un bébé panda.
Ça part de
donc, il y a quoi ? Il n'y a pas de création du tout. Il y a une transformation. Il y a un spermatozoïde de panda qui a rencontré un ovule de panda. Et il y a un croisement génétique qui s'est fait entre les différents chromosomes. Et il y a un développement ensuite parce que ça a pris de l'énergie de l'extérieur et ça a grandi. Mais enfin.
D'accord.
Tu comprends ? C'est-à-dire que rien ne se crée.
C'est quoi la phrase ? C'est rien ne se perd.
Exactement. Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Oui ?
Il y a un autre argument parfois que j'entends, c'est que si ça se trouve au début, il y a deux, trois personnes qui ont inventé une histoire.
Nous, c'est de ça qu'on parle. Ils ont inventé une histoire de folie, super bien ficelée.
Quand je dis à certaines personnes, mais il y avait des 3 millions de personnes, ils disent, mais d'où tu sais, peut-être c'est à la suite de ça.
J'entends bien. C'est à ça qu'on répond, que cet argument il répond. Parce que d'accord, disons qu'il y a un mec, il a super bien inventé. Mais... l'idée même de pouvoir inventer que le créateur parle, d'où tu l'as inventé celui-là ? Alors, la notion de créateur qui parle, c'est une notion qui est étrangère à l'homme. Il m'allait le créateur qui te parle, tu n'aurais jamais pu inventer que le créateur parle, puisque tu n'aurais pas du tout eu accès à cette dimension du créateur. La dimension de ex nihilo n'existe pas dans l'univers. Du moins, on n'arrive pas. Donc, ça veut dire que le simple fait que tu as dit que Dieu, il a parlé, c'est la preuve que Dieu, il a parlé. Car vous allez me dire, mais non, mais dans les autres civilisations, il y a eu plein de dieux, au pluriel, qui ont parlé avec des hommes. Plein de divinités qui ont parlé avec des hommes. Zeus parle avec plein d'hommes, surtout plein de femmes. Ken, aval, toutes les divinités des mythologies ne sont pas le créateur. Elles ne sont que des personnifications des forces de la nature. C'est exactement l'éléphant rose. Il y a le soleil, il y a les personnes, donc je suis capable d'inventer le dieu du soleil, Hélios, la folie. Mais ce n'est pas le créateur, le soleil. Et dans aucune mythologie, on revient au créateur. On s'arrête toujours avant. Zeus, chef des Olympiens, c'est le fils de Cronos, un titan. Cronos, c'est le fils de Uranus et Gaïa, le ciel et la terre. Et Uranus et Gaïa, c'est les enfants de Chaos. Chaos. Et Chaos, on ne sait pas d'où il vient. En d'autres termes, les Grecs, ils ont commencé à Vaharet, Saïta, Tohu, Vavohu. Ils ont oublié le Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. En d'autres termes, c'est bien beau de me personnifier des forces de la nature, mais c'est à l'intérieur de ce monde. C'est une transformation de ce qui se passe dans le monde. Mais créateur qui parle créature, bah, s'il ne parle pas, tu ne peux pas le savoir.
Comment ça se fait que cet argument-là ne convainque pas certaines personnes ?
Mais parce que tu ne l'as pas bien expliqué. Non, c'est-à-dire qu'il faut que tu, bien, tu mettes l'accent sur le fait que c'est un argument qui n'est pas Khavayati. C'est un argument qui est purement intellectuel. Est-ce qu'il est d'accord, la personne en face de toi, de dire que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'inventer ? Là, pour le coup, c'est Rav Shirky qui donne l'argument, enfin l'exemple, de ce petit enfant de Mea Shearim qui ne connaît rien du tout à part le yiddish et qui rentre chez lui, il ne connaît que la maison, l'école, m'école, la maison, et tout d'un coup, il raconte deux phrases en japonais et il dit qu'il a rencontré deux japonais dans la rue qui lui ont appris ces phrases-là. Il dit forcément la vérité, puisqu'il ne peut pas avoir inventé le japonais.
On peut dire qu'il peut rajouter certains détails, toujours les enfants, ils exagèrent.
Ok, c'est vrai, il a rajouté des détails, mais le japonais, il a bien appris de quelqu'un ? Ça, c'est sûr ? Non, mais ça veut dire que le japonais, il n'a pas pu l'inventer. Donc toi, tu me dis, rajoute des trucs. Ok, Nbaya, nous aussi. Yicholot qu'on exagère. D'ailleurs, pas Yicholot, on exagère.
Dans quoi, par exemple ?
Bah, dans tout.
Non, mais dans le...
Dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Gemara. Combien de fois on a dit des choses qui sont guzma ?
Mais
oui. On exagère. Mais le point de départ que Dieu a parlé, s'il n'avait pas parlé, on n'aurait pas pu le dire. Il y a fait parce que tu parles de Dieu ici comme étant l'une des forces de ce monde ou the force de ce monde. Moi, je ne te parle pas de Dieu en tant que force. Je te parle du Créateur. Et toi, tu sais aujourd'hui qu'il y a la notion de création. Pourquoi ? Parce que tu as lu la Torah. Mais ce que je suis justement en train de te dire, c'est que avant la Torah, le Créateur ne s'est jamais révélé en tant que tel à l'homme.
Avant le Mahamad
Arsinaï.
Tu penses que la notion de création ne peut pas la halot à la da'at ?
Bidiouk.
Pourquoi pas?
Bah, nous dit Lavoisier.
Je comprends. Mais...
Nous dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on va mettre un smash et une galette en tant que créateur?
Ah, comment on sait que c'est le créateur? Le Dieu de la création qui parle à l'homme, c'est Hachem Elohim. Ron, dans le deuxième chapitre du livre de Bereshit. C'est qui la dimension divine qui se dévoile à l'homme en tant que créateur ? Hachem Elohim. Ele toledot Hashamayim ba'aretz be'ibar'am. C'est qui parle dans ce deuxième chapitre ? Hachem Elohim.
Donc les êtres humains, avant le dévoilement du Arsinaï, quelles étaient quelles étaient les différentes opinions concernant le monde ? Il a été créé, il a été... Quelles étaient les différentes opinions ?
Ah, c'est une très bonne question. C'est la question qui est posée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans la parashat Vayetranan, va dire au Bnei Israël, « Kishalna le yamim rishonim » C'est-à-dire, je vais mourir. Il te dit, moi, je vais mourir, je viendrai. Alors, voilà mes dernières volontés. Vérifiez. « Kishalna le yamim rishonim » Allez vérifier dans toutes les bibliothèques du monde. « Miktze ha-shamayim vat ketze ha-shamayim »« Miyom ha-adam ala adama » C'est-à-dire, allez, prenez tous les livres d'histoire du monde et de géographie. Hania, Kadavar Agadol Azeo, Anishma Kamo, Hashama, Am, Kol Elohim Medaber Mitochaesh, Kacher Shamata Ata Vayeri. C'est-à-dire que nous dit Moshe, allez vérifier. Vous allez voir qu'aucune autre culture avant vous ne dit que Dieu leur a parlé. Allez vérifier. Moi, je l'ai fait, hein. Mais va vérifier dans tous les livres de mythologie, tu vas voir que jamais le Créateur ne parle.
Et si Dieu ne s'était pas révélé à Abraham en tant que Créateur, pourquoi est-ce qu'Abraham il s'est accru plus en Dieu que
l'autre ? Ah, il y a fait merde, Abraham il ne connaissait pas le Créateur.
C'est quoi la question ?
Si Dieu s'était dévoilé à Abraham en tant que Créateur, pourquoi lui il connaissait plus ? Je réponds, Abraham il ne connaissait pas le Créateur.
Et donc pourquoi il a cru en Dieu ?
Enfin, il a cru, il a. Et parce que Dieu s'est dévoilé à lui, mais pas en tant que Créateur. La preuve, c'est ce que Dieu dit à Moshe. Il dit, ויירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא דעתי להם.
Quelle était l'opinion de Abraham concernant le monde, qu'il est calme, il s'était pas posé la question.
Il s'est pas posé la question.
Il s'est pas posé la question, ça m'étonne.
Il s'est posé une autre question. Tu te rappelles du Midrash?
Oui, sur la Bira.
Voilà, sur la Bira. Le Midrash qui te dit, bon, il voulait savoir qui était le patron. Il a vu c'est le soleil, c'est le soleil. Après, il a vu c'est la nuit, c'est la lune. Après, il a vu c'est le soleil, non, c'est le soleil. Après, il y a des nuages qui ont caché le soleil, c'est le nuage. Après, le vent, il a vu les nuages, c'est le vent. Et il est arrivé à Efchar Birazo le Lomanig. C'est-à-dire que la question c'est le monde, mais qui est le patron du monde? Donc Abraham ne s'est pas posé la question de la création.
C'est bizarre de ne pas se poser une telle question.
Parce que
c'est une question essentielle.
C'est une question essentielle. Donc Abraham, d'abord, tu es d'accord avec moi que dans ce midrash-là, il ne se pose pas la question de la création, il se pose la question de qui est le patron. Mm-hmm. Donc, et Tzitzalav Balabira, il lui a dit, c'est moi le patron. Donc, Abraham, il connaît le patron du monde. Donc déjà, quand il veut faire tchouva à tout le monde, okay, il leur explique qui est le patron. Mais il leur explique par une certaine façon. Comment il fait pour expliquer aux gens qui est le patron? Il leur donne à manger. Lama. Pour leur faire prendre conscience qu'ils sont créatures. C'est-à-dire qu'ils sont des humains qui reçoivent leur vie de l'extérieur. On se rapproche, mais on n'est pas encore du point de vue du créateur. J'ai compris que moi, ma vie, elle dépend de l'autre. En l'occurrence, du patron. Mais je ne sais pas ce que c'est que la dimension de création. C'est ça ? Alors tu vas me dire, non mais pourtant, il y a marqué « Vaïra el Avashem » Yudke Vavke. Donc Dieu s'est, oui, dévoilé à Abraham en tant que Yudke Vavke, le créateur. Ken, seulement lui, il a compris quoi, Abraham? El Shaddai. C'est-à-dire, il s'est dévoilé en tant que Yudke Vavke, mais lui, il comprend El Shaddai. Le vrai dévoilement au peuple juif, à l'humanité de Yudke Vavke, c'est Bema Madassi. Ok? Donc c'est très important pour Abraham d'avoir eu ce dévoilement, mais c'est un dévoilement qui n'est pas encore le dévoilement au Mont Sinaï. Et de toute façon, je vais maintenant tout renverser en disant « Ah, oui, Abraham, il comprenait. » Mais ça, d'ailleurs, et ben même s'il comprenait, il l'a dit à personne. Puisqu'il le dit à personne, ben, les gens, ils ne peuvent pas savoir. Ok ? À tel point que les enfants d'Abraham, ils pensent que qui est le créateur ? Abraham. Ben oui, les enfants d'Abraham, c'est qui? Alors, Yitzhak, mais lui, ça va, il va rentrer dans le moule de la Torah. Ishmaël, Hershéou, lui aussi. Et les autres, les six autres. Les Bnei Ketourah. Et il les envoie Kedma et Eretz Kedem. Ils vont devenir l'Extrême-Orient. Ben, Ma'anien, le dieu créateur dans la mythologie de l'Extrême-Orient s'appelle Brahma. Abraham. Elle est toledot ha-shamayim va-aretz be-ibar-am. Omrim Chazal, al tikra be-ibar-am, ela be-Abraham. C'est quoi be-Abraham? Bishvil Abraham. Ils ont compris par Abraham. C'est vrai? Donc la dimension de dévoilement, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de dévoilement du Créateur, je ne peux pas savoir qu'il y a un Créateur. Et puisqu'il y a dévoilement du Créateur, alors maintenant je sais qu'il y a un Créateur. Donc, je suis une créature. Donc, je reçois ma vie de l'extérieur. Et donc, puisqu'il m'a donné sa Torah, alors Zemechayev aussi. Lorsque Moshe arrive, Dieu lui dit, viens, va dire au Bnei Israël que je vais leur donner la Torah. Et Moshe redescend et dit au Bnei Israël, et quand la devarim ma chère d'Iber Hashem? Et les enfants d'Israël, ils répondent L'eau. Quand la chair d'Iber Hachem n'a assez. Parce que toi, tu dis. On ne peut pas accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Et Rachid dira, il citera le Midrash, Retzonenu lirot et malken. On veut voir Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc Moshe, il ramène les paroles à Dieu. Ils disent, ils veulent pas. Ils veulent toi. Dieu dit, mais ça, non. Alors, dis-leur d'être prêt dans 3 jours. Ki'anochi ba'elecha be'aveh anan. Ve'yishma ha'am bedaberi imach. Ve'gam bechaya minu le'olam. Très bien, je vais me dévoiler dans 3 jours. Et tout le monde va entendre que je te parle. Et donc, bah, ça va authentifier la shlichut que je te donne. Et à partir de là, toute la Torah, Zemet, Zemin HaShamayim. Et donc, Zemechayev. Et donc, ça m'oblige. Parce que ça ne vient pas d'une réflexion extraordinaire quelconque, mais ça vient bel et bien du dévoilement de l'éternité. C'est ça ? Donc, finalement, nous dit Manitou, le dévoilement divin, c'est le point sine qua non pour qu'il y ait judaïsme. S'il n'y a pas de dévoilement, il n'y a pas de judaïsme. C'est ça ? Et donc, ça veut dire que ben, sans dévoilement pendant 2500 ans, il n'y a pas de judaïsme. Il y a un truc, il y a un judaïsme, mais il n'y a pas de Torah d'Israël. Malka vesarea bagoyim, nous dit Megillat Eicha. Qu'est-ce qui se passe quand Malka vesarea bagoyim? Une Torah. Vegam neviea lo matzu chazon. C'est quand on est bli itgalut, bagalut, une Torah. Alors il y a du judaïsme. Une espèce de boîte de conserve dans laquelle on met tous les vestiges du judaïsme et on conserve tout ça, parce qu'il faut le conserver, parce qu'on sait qu'un jour, ça va redevenir grand. Et donc, toute la tzipia, toute l'espoir de 2000 ans de judaïsme, c'est de retrouver le dévoilement divin. C'est uniquement ça l'espoir du judaïsme, que Dieu se remette à parler. Seulement, ce n'est pas le problème pour lui de parler. C'est est-ce que nous, on est capable d'être le cli pour écouter? Et donc, pendant 2000 ans, on doit se préparer à être le cli, à avoir les oreilles pour écouter. Et c'est ça que va faire la Torah de Manitou, entre autres, de réapprendre aux gens à écouter. À écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il voulait tellement retourner à l'étude du Tanakh. Pour réapprendre aux gens qu'est-ce que c'est entendre Dvar Hashem. Et donc, avec l'aide de Bezrat Hashem, ben, on va y arriver. Et on sera la génération qui aura le mérite de réentendre la parole de Dieu. Amen. Ken, Yehi, Patson.
Un chouton.
Pardon ?
Kipchuto entend, genre.
Ben, pourquoi pas ? Mais alors, quand tu me dis Kipchuto, ça veut dire, est-ce que ça va être sonorisable ? L'ODR.
Non, ou alors comme le cousin, il disait sur. Et ta colonne était la pitié, que c'était
pni. La reine se dit, un ilo yodéa. Par exemple, quand tu dis,
vechola. Et Khadmem, en tout cas.
Hein?
Et Khadmem, en tout cas.
Quand bah, on a un moment. Quand, d'un côté, on te dit dans la Torah plein de fois que Shamu. D'un côté, on te dit, vechola, Amroim et ta colotte. Sur quoi ils ont vu les voix? C'est l'eau pas chute. Yonatan Benouziel nous dit, ils ont vu que la voix sort du mont Sinaï et rentre de manière différente dans chaque oreille de chacun des Bnei Israël. Donc ça rentre dans l'oreille. Mais je sais pas ce qu'ils ont vu. C'est d'accord
comme il dit le Rambam, quoi, pour les Motamashiach. Quand ça viendra, ça viendra.
Comment ça va être? Je sais pas comment ça va être.
Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'ils ont peut-être entendu d'une manière différente? C'est-à-dire, c'est, ils ont entendu la même chose, mais d'une manière différente?
Nahon. Parce qu'on n'a pas forcément le même réceptacle, on n'a pas le même cli, on n'est pas capable de comprendre la même chose. Donc ça veut dire que je sais pas exactement si quand Dieu il va parler, tu prends un enregistreur, tu vas avoir quelque chose sur. Sur ton fichier, ou alors est-ce que non, c'est moi j'ai entendu, mais en fait c'est de la télépathie. Je peux pas te dire, on verra. Ça, on verra.
Si Dieu...
Amen. Chazak Baruch.